Bonjour, c'est Virginie de Toulouse. Alors, plus question d'éco-anxiété avec vos émissions Hors les murs, c'est juste une expérience de radio en direct unique et qui sort tellement de l'ordinaire, c'est formidable. Le seul hic, c'est que ces émissions paraissent beaucoup plus courtes que celles en studio. Nous sommes tellement happés avec vous dans les paysages vosgiens qu'on ne voit pas leur tourner. On a hâte de pouvoir écouter vos prochaines émissions Hors les murs. Bravo pour votre travail, votre adaptation tout terrain et bravo techniciens.
Bonjour, Cachou de Savoie. Alors j'apprends que France Inter fait une journée spéciale climat. Super, on peut pas à la fois se proposer de faire des journées spéciales écologie, donner des conseils, et puis de l'autre côté, être content de voir l'économie reprendre, l'industrie repartir de plus belle, les emplois polluants se développer, etc. C'est pas possible, quoi. Il y a un moment où il faut dire halt au sketch. Et avec l'élection présidentielle qui se présente, c'est qu'il y a toujours qu'un seul candidat de toute façon, c'est le capitalisme. Merci.
Alors, je suis contente que vous voyez des très beaux paysages. Mais alors, moi, je vais dire que c'est un petit coup d'épée dans l'eau. On nous dit, c'est très beau, mais ne venez pas.
Bonjour, Anne. J'habite Saint-Dié-des-Vosges. Pour ma propre action, je ne tends plus mon terrain et j'accueille chaque jour les chevreuils, les sangliers et les renards.
Bonjour, c'est Bertrand de Ventron. Alors tout d'abord, un grand merci pour l'émission. C'est très agréable de voir notre département de cette manière. Je voulais revenir sur deux choses. C'est que d'une, les Vosges ne se résument pas qu'au massif. Et de deux, c'est facile de stigmatiser toujours le touriste. Mais c'est en premier lieu les locaux, les Vosgiens, qui doivent se questionner sur leur rapport au massif, à la montagne. Parce qu'il n'y a pas que des touristes qui vont se garer sur la route des crêtes pour marcher 10 minutes et faire 3 photos. Il n'y a pas que des touristes qui demande des tartes aux brimbelles en mars ou octobre. Merci.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Et après notre étape hier sur le lac de Retournemer, eh bien nous poursuivons nos pérégrinations aujourd'hui sur le versant alsacien des Vosges pour cette première des 4 saisons de la Terre au carré. Hier, avec toute l'équipe, nous avons passé le col de la Chlourte à 1100 mètres d'altitude pour arriver dans la vallée de Münster. Et je peux vous dire qu'on n'est pas près d'oublier la couleur du feuillage des arbres qui éclate tout en ce moment avec les rouges, les oranges, les jaunes vifs. La forêt est totalement psychédélique. Aujourd'hui, nous avons installé notre bivouac radiophonique à Mittlar, dans le Haut-Rhin, un village de montagne où l'on croise la célèbre Vosgienne que vous entendez derrière nous, cette vache rustique dont l'épopée flirte avec la grande histoire de l'agriculture française. Bonjour Florent et Anne-Marie Campello.
Bonjour. Bonjour.
Merci de nous accueillir dans votre ferme de Rottenbach. Vous êtes éleveur de vaches vosgiennes. Vous militez tous les deux pour le maintien d'une agriculture de montagne. Et vous allez nous expliquer comment vous avez modifié votre pratique pour développer justement cette agriculture raisonnée. Bonjour Olivier Claude.
Bonjour.
Vous êtes également avec nous cet après-midi. Vous êtes le directeur du parc national régional des Ballons des Vosges. Et on parlera avec vous en particulier de cette prairie que nous avons sous les pieds. Prairie permanente avec un rôle absolument fondamental. Et puis en cette journée consacrée au climat sur France Inter, on ira aussi tout à l'heure à la rencontre de la viticultrice Mathilde Pfister qui produit des vins biologiques et qui travaille sa vigne avec le souci de minimiser son empreinte carbone. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Attention, il y a une vache juste derrière vous.
À 14h30, Camille passe au vert et vous poursuivez votre série de reportages sur les luttes vosgiennes.
Oui, je suis allée dans les massifs, dans le massif hier au sujet des tensions qu'il y a autour de la pratique du VTT dans la forêt.
Et puis à la fin de l'émission, nous retrouverons le reportage d'Anna Elverzo qui s'est rendue à Thaon-les-Vosges pour visiter les jardins de Cocagne, une association qui produit des paniers de légumes et qui emploie des salariés en réinsertion professionnelle. Voilà pour le sommaire complet de cette Terre au carré, réalisé par Valérie Ayestaraï et Stéphane Ronxin, préparé par Chantal Le Montagnier et Marion Philippe, avec à la technique Romain Lukens, Jérémy Thuil et Benoît Gégou.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour la Terre au carré, bienvenue dans les Vosges pour fêter l'automne.
Florent, Anne-Marie Campello, merci de nous accueillir. Vous êtes donc des piliers de la race vosgienne ici dans votre ferme de montagne du Rothenbach. Est-ce que d'abord, vous pouvez, pour nos amis auditeurs, décrire où nous sommes exactement, en compagnie de qui et dans quel cadre ? Florent.
Eh bien, bonjour à tout le monde. Alors, le cadre, il n'est pas compliqué. On est en plein milieu des vaches. Il y a Louise, il y a Edelweiss, il y a Jaillance qui est là.
Elles ont toutes un prénom.
Toutes un prénom et on les connaît toutes. C'est grâce à nous qu'elles sont là déjà. Et puis ensuite, on est dans cette ouverture de la vallée de la Wormsa, qui domine par le Spitzkopf, qui est la montagne la plus pointue du massif des Vosges.
Ouais, on est au milieu des vaches, mais pourquoi il y a un ours à l'entrée de votre pré alors?
Ça, c'est un ours en bois, hein, on précise. Donc ça, c'est le dernier ours qui a été tué dans la vallée de Münster par un paysan dénommé Bill en 1870.
Ah, c'était Bill le chasseur. Ah, Bill le chasseur paysan. D'ours des Vosges. Anne-Marie Campello, c'est vous l'enfant du pays en réalité, hein. Ce sont vos terres ici.
Oui, tout à fait. Donc déjà, mes parents avaient la ferme, mes grands-parents avant et mes arrière-grands-parents. Donc c'est une grande fierté et un honneur quoi, de continuer ce travail et de continuer à perpétuer les traditions et les valeurs qu'on enseignait. Quoi.
Il y a combien de vaches dans le troupeau, Florent ? Et est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi elles ressemblent, ces vaches de la race vosgienne ?
Bon, alors déjà, on est à un troupeau de 65 têtes. Et là, on est au milieu des vaches laitières, donc celles qu'on va emmener à la traite les matins et soirs pour faire nos fromages. Et là, on est au milieu de 27 vaches. Alors ces vaches-là, elles sont pas très compliquées à comprendre. C'est une vache qui est empruntée totalement de sa robe sur son territoire. Pourquoi ? Vous avez la raie blanche, qu'on la voit, vous le voyez Camille, on la voit bien. Cette raie blanche, c'est l'équivalent du sommet des Vosges en hiver quand c'est blanc. Et le flanc qui est moucheté comme Louise, c'est les arbres qui n'ont plus de feuilles. Donc ça veut dire que c'est une vache qui est sur son territoire, empreinte de son territoire.
Anne-Marie, est-ce qu'elles répondent vraiment à leur prénom, vos vaches ?
Ah oui, tout à fait.
C'est vrai ?
Ah oui.
Montrez-le-moi, prouvez-le-moi alors. Appelez
c'est qui à côté de nous là ?
C'est Louise.
Alors ? Louise !
Mais Louise, elle est peut-être un peu impressionnée.
Mais parce que moi, j'ai pas la bonne intonation, je suis pas assez autoritaire avec elle.
Ah bon, alors on va faire
appel
à Florent.
Elle est plus autoritaire avec moi.
Allez-y, Florent, essayez.
Moi, je peux appeler, mais elles vont toutes se lever. Jaillance, hi. Elle a levé la tête, je l'ai vu.
Ah oui, ça se réveille un petit peu.
Est-ce qu'on les dérange là ou elles nous calculent pas presque?
Non, alors si on observe les vaches là, elles sont pour la moitié couchées, l'autre moitié en train de pâturer. Donc quand elles sont couchées, elles sont un mouvement de rumination là avec leur bouche. Ça veut dire qu'elles sont tranquilles, qu'elles sont bien et quand là, elles sont en train de produire du lait avec l'herbe qu'elles ont mangé depuis ce matin.
Voilà. Et quelques gaz à effet de serre aussi?
Oh, si peu. Elles en rejettent moins que ce qu'elles en consomment, donc c'est bon.
Ouais. Donc il y a toujours c'est le méthane, on pourra en parler tout à l'heure, hein, parce que c'est la façon dont on peut essayer de lutter aussi contre ces émanations. Vous nous direz si vous avez des trucs pour ça. Florent, vous avez deux fermes, parce qu'en fait, on va se déplacer. Ici, on est dans le pré, donc avec les vaches, et puis on va monter réellement à la ferme où vous produisez votre fromage. Donc il y a ces deux espaces sur lesquels vous bossez, c'est ça?
Oui, alors nous, on a deux espaces, puisqu'on a la chance, on a la grande fierté d'être et de pratiquer la transhumance. Donc la transhumance, c'est le fait d'emmener des animaux d'une ferme à une autre, à travers 15 km à pied en montant et 13 km à pied en descendant. Et du coup, on a cette chance de pouvoir habiter totalement sur le sommet des Vosges, à côté du Honnec en été, pendant 4 mois de l'année. Et on monte généralement à la Saint-Urbain et on descend à la Saint-Michel avec nos animaux.
Et alors, quelle est votre activité justement tout au long de l'année, et en particulier dans cette période automnale là ? Qu'est-ce que vous faites là, en
alors,
ce moment ?
Notre activité principale, c'est effectivement la production de lait à travers nos vaches vosgiennes. Donc on fait le lait et on transforme notre fromage tous les jours de l'année. Donc Anne-Marie est la productrice et la fromagère de la ferme. Et nous, avec le salarié Basile, on produit, on amène nos vaches sur les pâtures les meilleures pour qu'elles donnent un meilleur lait. On fait le fourrage puisque en hiver, il faut également qu'elles puissent manger quelque chose. Et puis après, on s'occupe de tout le soin des animaux et de tout ce qui est nettoyage de l'étable.
Mais Florent, vous n'êtes pas un enfant du pays, vous, pour le coup?
Non, vous êtes arrivé ici? Moi, je suis un Icavon, comme on dit ici.
Ah ouais, mais comment vous êtes arrivé ici au point de vous passionner
Mathieu, l'amour. Voilà. Non, moi je suis venu une fois ici avec un copain, on est monté là-haut et puis j'ai vu mon épouse servir 6 apéritifs maison et elle a dû reposer son plateau quand elle m'a vu, moi je tiens à préciser.
Anne-Marie, on précise donc, on l'a dit, tout est bio ici, elle ressemble à quoi vos journées ?
Elle ressemble à quoi ? Déjà j'arrive, j'écrème de la super bonne crème de nos vaches, je m'occupe de mon chaudron, de mon lait, chaque jour est différent, chaque jour je fais un autre fromage, le cahier est différent sous mes doigts, enfin s'ennuie pas, c'est vraiment une vie très active et puis même si on est fatigué à la fin, on est heureux parce qu'on est dans un super environnement avec toute notre famille de la ferme. Quoi.
Vous allez nous montrer ça tout à l'heure, hein, quand on ira directement à la ferme.
J'ai une vache qui s'approche gentiment de... Je viens de sentir quelque chose derrière moi, c'est Louise, c'est ça?
Oui, c'est Louise, non, mais...
Coquine.
Florent, vous êtes un militant du pastoralisme. Qu'est-ce que ça veut dire ici dans les Vosges, le pastoralisme? Ça semble un mot qu'on entend peu finalement dans cette région.
Qui, ça
c'est le Delvaille, elle est en train de se gratouiller. Alors le pastoralisme, c'est un grand mot et je pense que dans les Vosges, c'est un mot qui prend son sens parce qu'on le remet au goût du jour et que beaucoup d'éleveurs aujourd'hui dans le massif font du pastoralisme sans savoir. Et donc du coup, c'est un vocabulaire qui est en train de revenir dans le massif des Vosges, mais qui pourtant au niveau national est relativement porté. Le pastoralisme, c'est justement ce maintien des paysages ouverts à travers l'élevage, c'est le maintien d'une tradition et des valeurs à travers des savoir-faire fromagers qui sont les nôtres, aussi bien sur le massif des Vosges, mais sur l'ensemble des massifs de France. Et si vous voulez, le pastoralisme, c'est tout simplement cette vie de montagnard, ce sacerdoce qu'on fait à notre montagne, et on se dit un jour, on va donner toute notre vie pour que cette montagne s'embellisse et que surtout elle ne se détériore pas.
Olivier Claude, alors ici, donc on est dans cette prairie qui est absolument essentielle. C'est un écosystème en soi, finalement. Hein.
C'est remarquable. Vous étiez cette semaine en forêt, vous étiez sur l'eau. Vous êtes dans la prairie, la troisième richesse du massif. Aujourd'hui, là, on est en train sans doute de marcher, excuse-nous Florent, sur une trentaine de plantes différentes. Donc c'est un puits de biodiversité incroyable qui accueille plein d'espèces, les plantes, les batraciens, les insectes, les oiseaux. On trouve vraiment là une grande richesse. Et qui en plus produit du bon lait. Donc là, on a tout gagnant là.
On va en parler évidemment avec vous tout à l'heure. On va évidemment parler réchauffement climatique, hein, puisque cette journée nous réunit aussi aujourd'hui dans les Vosges. Florent, quand on est agriculteur engagé comme vous, avec aussi ce domaine qui doit répondre aux enjeux du réchauffement climatique, comment ça se traduit vous dans votre pratique précisément?
Eh ben, c'est pas.
Dites-nous ce qui s'est passé là.
Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Mirabel qui s'est effrayée parce que...
Il y a Romain qui
voulait essayer d'avoir un son qu'il n'a pas réussi à avoir, ou en tout cas, il voulait peut-être lui faire des papouilles, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle s'est effrayée, Mirabel.
Elle a fait un petit bond.
Voilà. Non, alors pour répondre à votre question, c'est tout simplement se réfléchir et poser la question déjà soi-même, de se remettre en question. Ça, c'est une valeur qu'il faut qu'on ait aujourd'hui en tant que paysan. Ça veut dire que on est quelquefois toujours un petit peu pris à partie en disant vous êtes des pollueurs, le gaz à effet de serre qu'on en a discuté avant. En fait, sur les exploitations de montagne, c'est pas tout à fait la réalité, puisqu'une exploitation de montagne a un bilan carbone qui est positif et largement positif par rapport à ce qu'il émet. Première chose. Et deuxièmement, ça veut dire comment on diminue notre empreinte sur le territoire dans lequel on est. C'est-à-dire avoir un entrant le minimum de plastique possible, chose qu'on verra après une fois qu'on sera à la ferme, à travers le séchage en grange qu'on a investi l'année dernière. C'est-à-dire aussi essayer d'avoir le maximum de localités et de clients locaux pour que le fromage ne voyage le moins possible. C'est-à-dire aussi amener de la technicité et de la mécanisation pour que utiliser moins de gasoil. C'est-à-dire aussi utiliser des vaches locales de territoire pour que justement on soit adapté au territoire et qu'on n'a pas besoin d'entrées et beaucoup d'intrants et de charges qui économiquement vont être négatifs pour nous et néfastes pour l'environnement et la nature.
Alors justement, pour rester dans ce sujet, samedi j'ai quitté d'abord le massif vosgien pour aller à la rencontre dans les collines, dans ce piémont vosgien, aller à la rencontre de Mélanie Pfister qui représente la 8e génération de vignerons dans sa famille. Son domaine viticole se trouve à Dallenheim dans le Bas-Rhin. Il a reçu d'ailleurs en 2020 une étoile au guide des meilleurs vins de France. Et Mélanie Pfister est engagée dans la production de vin biologique et cette ingénieure agronome de formation ne néglige elle aussi, on va le voir, aucun détail pour réduire son empreinte carbone.
Voilà, donc là on est dans le Grand Cru, dans l'Engelberg. C'est ce terroir qui est classé Grand Cru, exposé au sud, avec une petite parcelle à nous ici, une parcelle en friche où on sème de la luzerne. On laisse les terres se reposer 4-5 ans entre une ancienne plantation et une nouvelle. Et sur le Grand Cru, on a surtout du Riesling, et c'est cette parcelle-là qu'on va aller voir.
Et vous avez combien d'hectares de vignes, Mélanie, exactement?
On a 10 hectares.
Et avec 10 hectares, on fait combien de bouteilles par an, à peu près, en production?
À peu près 60 000.
Donc là, on va se garer, et la vue est quand même très chouette, hein. Magnifique.
Dommage qu'il fasse un peu couvert.
Ouais, mais ça va, on prend quand même.
La colline s'appelle le Schararberg, c'est cette colline-là qui domine un peu le paysage environnant. En temps normal, on voit la cathédrale, là on ne la voit pas du tout.
De Strasbourg,
mais
oui, parce qu'on est à 20 km, c'est ça?
Exactement, ouais. Là on la verrait en plein. Mais...
Et alors le bio, vous avez commencé quand?
Le bio, on a commencé officiellement au printemps 2018. Mais il faut dire que mon père avait déjà une démarche tout à fait écologique, puisque dès les années 80, il a commencé à faire de l'enherbement, fin des années 80, à faire ce qu'on appelle des engrais verts, donc à semer d'autres plantes dans les vignes, pour que finalement la vigne se sente bien, ait un sol vivant, puisque c'est ce substrat-là qui donne toute l'énergie à nos vignes et à nos raisins.
Alors on va emprunter ce petit chemin étroit et caillouteux, donc je vous suis.
Voilà nos parcelles de Riesling. Exposées au sud.
L'odeur en arrivant de la terre.
Et donc les jolis raisins qui nous attendent.
Ouais, alors on va le goûter. Il est très sucré, hein.
Ouais, c'est très sucré.
Ouais.
Les Riesling sont caractérisés toujours par leur belle acidité. Et maintenant, on a vraiment des raisins qui sont à belle maturité et ouais, assez plaisants.
Alors, Mélanie, on disait donc que vous êtes en bio, mais vous n'avez pas la certification bio qu'on connaît en France. Vous avez choisi une autre certification qui est assez peu connue. Je crois que vous êtes les seuls Français à l'avoir. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Oui, alors on n'a pas encore la certification bio, on l'aura pour les vins du millésime 2021. Et le label qu'on a depuis quelques années, en fait, s'appelle Fair & Green. Fair & Green, c'est un label de viticulture durable qui a été créé en Allemagne. Et viticulture durable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire durable au sens environnemental, social et économique. Et dans l'environnemental, et ben, justement, on tient compte de, évidemment, ce qu'on traite. Et outre les traitements, il y a toute la partie bilan carbone, consommation en eau, en électricité, en gasoil, tout ça on le mesure. On a fait poser des sous-compteurs partout pour pouvoir évaluer notre consommation mensuelle. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que certaines pratiques finalement sont pas prises en compte dans le bio, alors que Fair & Green en tient compte, et notamment dans le bilan carbone. Tous nos impacts sont pris en compte. Et notamment dans nos intrants, justement, le choix de la bouteille, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, il faut savoir que la bouteille vide compte pour près de la moitié du bilan carbone d'une bouteille de vin. Alors, on a beau se dire qu'une bouteille lourde paraît plus chic, plus élégante, en fait, c'est un non-sens en termes écologiques, puisque une bouteille lourde, elle va générer beaucoup plus de carbone. Même si le verre est recyclable, le verre, c'est pour nous quelque chose qu'il faut qu'on diminue. Et donc, on a fait le choix de changer de bouteille, d'avoir une bouteille un peu plus simple quelque part. Mais moi, je suis contente de savoir que j'ai un verre léger et que du coup, mes bouteilles qui sont exportées à l'autre bout de la planète, ben, elles pèseront moins lourd aussi.
La viticultrice Mélanie Pfister et son domaine, donc, qui se trouve à Dallenheim dans le Bas-Rhin, et les vendanges qui ne sont pas encore terminées d'ailleurs chez elle en Alsace. Alors Florent et Anne-Marie Campello, ici dans votre région, donc là on se retrouve dans la montagne, dans cette vallée de Münster, est-ce que vous avez le sentiment que les pratiques sont en train de changer pour être plus en phase justement avec les réalités environnementales, Anne-Marie ?
Oui, je trouve que déjà les gens, depuis tout l'épisode Covid de 2020, il y a une prise de conscience qui s'est faite. Les gens sont venus plus dans leurs fermes de proximité, acheter des choses à des gens, à des humains, on va dire, quoi, pour faire vivre, pour s'entraider. Et ensuite, il y a aussi une grosse prise de conscience au niveau des emballages, enfin des choses. Moi, je vois, nous, à notre petit magasin de Mittlar, quoi. Déjà, chacun vient avec son bidon de lait, on remplit les com dans le temps, quoi. Alors, ça fait sourire peut-être certains, mais c'est génial. Où les gens viennent avec leur petite boîte, on leur met le fromage blanc dedans. Il y a pas de déchets. Enfin, tout est. Mais même quand ils ont pas leur contenant, on fait des consignes et ça remarche du tonnerre, quoi. Et ça, je trouve ça génial, quoi, que notre ferme n'ait même pas d'impact au niveau commercial, quoi.
Florent, ici, donc vous êtes en agriculture raisonnée, hein, vous n'avez pas le label bio. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, les vaches, elles broutent. Il y a quoi dans l'herbe qu'elles broutent au-delà des espèces dont parlait Olivier Coute tout à l'heure?
Dans l'herbe, il y a de l'herbe. Donc, il n'y a pas de produits phytosanitaires, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien de tout ça. On fertilise nos terrains avec du compost qui vient de l'usine de compostage qui vient juste la commune à côté. Et on laisse la nature faire les choses. Et c'est-à-dire qu'une année où effectivement le changement climatique, il est difficile pour nous, eh ben, on sera les premiers qui vont en pâtir. Donc ça veut dire qu'on doit être les premiers du changement climatique à faire des choses, à s'adapter au climat, mais aussi à réfléchir et donner un sens à nos terrains plus que vouloir de la productivité à tout prix.
Florent, il y a une question de notre technicien Romain qui perche les vaches tout l'après-midi.
Bah ouais, et je me rends compte qu'elles ont pas la même forme de corne de l'une à l'autre. Comment ça se fait que c'est la même race ?
Et ben on n'a pas la même tête non plus, on n'a pas les mêmes cheveux non plus. Donc du coup, je vais te répondre comme ça. Donc c'est pour ça qui fait qu'individuellement, elles poussent pas. Alors généralement, il y a trois formes de cônes. Il y a celles qui sont en lyre, il y a celles qui se retournent sur elles-mêmes comme Mirabelle qu'on voit ici, et puis il y a les plates qui remontent tout de suite derrière. Et puis il y a celles qui ont les cônes coupés. Ben les cônes coupés, c'est tout simplement parce qu'elles étaient un petit peu trop de caractère pour les autres, et pour des raisons de sécurité pour ses aïeux et pour nous, on a décidé de lui couper. Mais c'est toujours un crève-cœur pour nous.
Ouais. Florent, il va falloir que nous quittions le pré des vaches, mais on a d'autres choses à voir puisqu'on va aller à la ferme, monter, on va crapahuter, on va quitter les mères pour aller voir les petits en fait, c'est ça, hein.
C'est ça, exactement ça, on va aller voir les veaux qui attendent leur mère de ce soir. Voilà. Voilà,
donc on fait tout ça en direct, je peux vous dire qu'il va falloir qu'on trace mes amis, mais on vous retrouve dans un instant, toujours en direct des Vosges, depuis le massif bien sûr à Mittelaar dans le Haut-Rhin, pour la suite de cette Terre au Carré spéciale.
Tourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Cette semaine à 14h, France Inter est dans les Vosges.
Et c'était Pomme avec les séquoias. Ça va Camille ?
Ça va super, on est donc
bonne petite marche.
Avec un grand soleil quand même, il faut le dire. On a encore du beau temps après de la pluie et du vent. Il y a eu du vent, il faut le dire aussi cette nuit. Hein,
170 km/h, Olivier Claude, hein, c'est ça ?
Ah, cette nuit, ça a soufflé, hein. Incroyable. Ça arrive de temps en temps, mais aujourd'hui, c'était une belle.
Et d'ailleurs, il n'y a pas d'électricité aujourd'hui à Mittelaar. Hein.
Bah, j'ai appris ça, le village a été coupé, donc les poteaux et les câbles, parfois ils tombent.
Mais Florent et Anne-Marie, vous avez l'habitude de ne pas avoir d'électricité ici, j'ai l'impression.
Ah, Mittelaar, c'est entre 15 et 20 jours par an, donc du coup, on s'équipe, quoi. Hein. Ça commence à devenir un petit peu longuet, mais...
D'ailleurs, on vient de croiser les techniciens d'Enedis, je crois, en face de nous dans la prairie.
Est-ce que vos vaches craignent d'ailleurs le vent ou les intempéries comme ça ?
Bah, quand elles sont à l'extérieur, quand elles sont encore en pâturage, non, elles vont se mettre à l'abri. Elles sont très intelligentes, nos vaches. Et du coup, elles vont se mettre à un abri quelque part où elles ont le moins de vent possible, où ça ira le mieux possible pour elles.
Alors, Olivier Claude, vous êtes donc, je le disais, le directeur du parc national régional des Ballons des Vosges. Alors, pourquoi des ballons ?
Eh ben, des ballons, il y en a plusieurs. Ballon de Servance, ballon d'Alsace, grand ballon, petit ballon. C'est ces sommets arrondis qu'on voit dans les Vosges, ouais, sur lesquels on retrouve généralement aussi les prairies d'altitude.
Comment vous les appelez, Florent, vous, ces montagnes?
Non, mais
dites-le.
Non, mais par rapport aux autres, c'est des grandes topinières. C'est grand et c'est rond. Donc, c'est voilà.
Une topinière, faut y monter quand même, hein.
Mais c'est spécifique aux Vosges.
Ah, ces sommets arrondis, oui, c'est spécifique aux Vosges. Bon, parfois, dans le massif central, c'est ces vieux massifs qui ont subi une érosion importante et qui se retrouvent érodés, arrondis sur les sommets.
Alors, il y a tout un travail, on le disait tout à l'heure avec nos amis vaches, sur les prairies, hein. Ça, c'est extrêmement important.
Ah ben, pour nous, pour la vie locale, pour le paysage, c'est très important, ces prairies. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est des puits de biodiversité, mais elles jouent plein de rôles. Le paysage est magnifique. On a parlé tout à l'heure de méthanisation. Ben, ce sont des puits de carbone. La forêt et les prairies, c'est les milieux qui captent le mieux le carbone. Ouais. Et puis, une thématique très importante en ce moment, c'est la question de l'eau. Et ces prairies permanentes, ce sont des... On voit là, la rivière à côté. Ouais, là, vous
voyez. Comment elle s'appelle, celle-là, d'ailleurs?
Alors, Florent, la rivière?
Je ne connais pas, je ne sais pas. Je ne suis, pas d'ici, moi.
C'est la rivière de votre village.
Marie, c'est la feste. Merci, non, Anne-Marie. Ouais.
Oui, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que ces prairies, c'est des vraies éponges. Donc, elles gardent l'eau. Elles retiennent un peu l'eau. Et puis derrière, ça crée toute une biodiversité qui va profiter de ce milieu. Donc, ouais, c'est vraiment important pour nous. Ouais.
Bonjour monsieur, voilà, parce qu'on traverse le village, donc on salue les habitants au passage. Et,
combien d'habitants ici à Mittelaar, vous savez?
340, oui.
À peu près 320-340 habitants. Voilà.
Allez, on va
ils
se retrouver.
Pas d'électricité aujourd'hui.
Ouais, bah oui, bah c'est ça.
Et
oui, ouais.
Demain.
On va se retrouver dans un instant. Il nous reste combien de temps encore, Florent, avant d'arriver à la ferme, là, réellement?
Réellement, à peu près 7 minutes.
7 minutes, eh ben, c'est très bien, parce que c'est à peu près le temps de la chronique de Camille, puisqu'il est déjà 14h30.
France Inter. La Terre au carré.
Et Camille Cronier, Camille passe au vert avec toujours les combats ou les débats ici dans le massif vosgien.
Et si je vous dis VTT, je pense que vous allez très vite savoir de quoi je parle vu les récits ces dernières semaines, aussi bien dans les journaux locaux que nationaux, des tensions entre les différents usagers de la forêt, à commencer par randonneurs et VTTistes, avec un événement marquant en septembre. Un pratiquant de 18 ans évacué par hélicoptère, il s'est pris un arbre plein pot après être passé sur une planche à clous dans le massif. J'en ai parlé avec Thomas Bastien, qui a commencé le VTT tout petit. Il sort toutes les semaines autour de Colmar et ses pièges sont bien réels.
C'est pas une légende. On a des planches à clous, on a vu apparaître des choses plus dangereuses avec des câbles de fer tendus à hauteur de poignée et de guidon sur les sentiers pour nuire aux VTTistes. Mais ça reste marginal.
Marginal, mais suffisant pour relancer un vieux débat. Ce qui agace profondément Philippe Lambert, le patron de la Fédération française de cyclisme dans le Haut-Rhin.
Faut pas non plus exagérer, parce que ça, c'est le sensationnel, ça. Mais c'est pas une tendance générale. C'est un épiphénomène, effectivement, de gens complètement idiots.
Oui, enfin, il s'est retenu, hein. Et ceux qui sont montrés du doigt avec ces histoires de planches à clous, de câbles et de barbelés aussi parfois, ce sont les quelques 500 signataires d'une pétition de l'association SOS Massif des Vosges, lancée cet été pour freiner la pratique du VTT, accusée d'avoir ravivé la colère et un peu mis le feu aux poudres. Mais le président Dominique Imbert se défend.
Nous ne sommes strictement pour rien. Nous avons toujours condamné, évidemment, fermement ces pratiques, qui sont des pratiques criminelles. Les gens qui font ça sont des criminels. Et nous ne sommes pas à l'origine de ces pratiques dans aucun sens.
Mais vous attisez un peu la colère, du coup.
Mais pas du tout. Nous développons un point de vue.
Alors voilà, on y vient. L'association estime que les VTT dégradent le massif.
Un vélo, ça creuse, hein. Un vélo, ça a du poids. Souvent, les VTTistes, pour avoir plus de sensations, prennent des virages en dérapage, par exemple, ou freinent très, très brutalement pour négocier à une courbe particulière ou autre chose. Et il faut savoir que souvent, les VTT, même lorsque la piste est tracée, même lorsque le chemin existe, préfèrent souvent le hors-piste. Et on retrouve des sols qui sont très, très vite totalement dégradés.
Les VTT ont autant d'impact que ça ?
Bien sûr, faut aller voir sur place, bien sûr.
Me voici donc du côté de Croûte avec cette fois Joseph Péter, le président du club vosgien. Il gère 21 000 km de sentiers pédestres dans le massif.
Alors là, je vais vous montrer une petite partie d'érosion, là, donc parce que les VTTistes...
Où ça, montrez-moi.
Ici, vous voyez, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, quasiment. Oui, c'est les traces de pneus, là. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, avant tout, la nature n'est pas un terrain de jeu. Vous voyez, au-dessus de nous, là, on a des sapins des Vosges, hein, des sapins pectinés. On a du hêtre, on a de l'érable sycomore. Ici, il y a des mousses. peut-être des lichens. La nature, on ne peut pas y faire n'importe quoi. On n'est pas sur du macadam. On n'est pas sur une surface minérale ici, on est dans un écosystème vivant.
Le club vosgien a donc lancé juste avant l'été un concept d'itinéraire partagé entre randonneurs et vététistes. Il a été pensé avec tous les acteurs et voici le premier du genre.
Alors, vous voyez, donc là, on a mis donc un petit panonceau qui indique que le vélo va aller à droite.
Ok, donc moi je marche, vous êtes le VTT, d'accord ? Donc là, on est sur le même itinéraire.
Oui.
Et là, moi marcheuse, donc, je prends à gauche et
à gauche et moi je prends à droite.
Mais on est vraiment l'un à côté de l'autre.
Oui, mais on n'est pas sur la même trace.
Ouh ! J'ai failli. Ça va, j'ai glissé vite fait sur une pierre.
Nous, ce qu'on essaye, c'est d'organiser pour préserver la nature. Certains sentiers sont dédiés, doivent être dédiés à la marche, d'autres au VTT. Et c'est ainsi qu'on arrivera à co-construire l'avenir dans le massif vosgien.
Parce que c'est bien l'enjeu avec de plus en plus de monde. Philippe Lambert de la Fédération cycliste.
Le vrai problème, c'est l'éducation dans un contexte nouveau où la montagne est de plus en plus, on peut pas dire envahie, parce que c'est pas vraiment le mot qui convient, mais en tous les cas, de plus en plus fréquentée. Et dans les 3 millions de vététistes, effectivement, il y a parmi eux des gens qui font un peu n'importe quoi, qui font des obstacles, etc., etc. Mais on ne peut pas diaboliser plus les vététistes et en faire des boucs émissaires, ce qui a été fait, de la détérioration de la nature. C'est insensé de dire des choses comme ça.
Vous, vététistes, vous êtes pas les gros méchants irrespectueux de la nature qu'on peut parfois imaginer.
Pour moi, non. On est pratiquant en milieu naturel, on est conscient des enjeux et de la faune, de la flore qu'on peut rencontrer. Donc c'est un terrain de jeu qu'on pratique en essayant de le garder au maximum dans son état pour que ça puisse rester un plaisir aussi de pratiquer sur ces lieux. Après, il y a certains qui pourraient avoir des pratiques moins tolérables, comme certains marcheurs.
De toute façon, vous me direz jamais, même vous me diriez pas, moi je fais n'importe quoi.
Non, on le dira pas. Après, on essaye vraiment de pas faire n'importe quoi, parce que il faut qu'on soit encore plus responsable vu qu'on est montré du doigt et que actuellement on n'a pas envie de se voir interdire les massifs. Et puis on veut pas non plus voir nos massifs se dégrader plus que ça. J'ai même tendance à dire que le vététiste ne voudrait pas voir le nombre de pratiquants trop évoluer pour pouvoir rester aussi tranquille chez lui.
Alors l'association SOS Massif des Vosges n'est pas non plus pour l'interdiction, mais voudrait que les VTT, qui au passage ont eux aussi lancé une contre-pétition avec 10 000 signatures, les VTT pratiquent sur les pistes des stations de ski hors période de neige ou qu'ils restent sur les chemins forestiers accessibles pour les deux roues.
Je ne parle pas de réguler la fréquentation. Fréquente qui veut. Je veux dire, le massif est une petite perle qui est très belle, mais on peut pas l'interdire. Il n'est pas question pour nous de l'interdire à quiconque, mais qu'on vienne dans le massif pour ce qu'il est et non pas pour l'instrumentaliser comme un terrain de jeu artificiel qui serait au service de n'importe quelle nouvelle activité. Demain, de nouvelles activités vont apparaître. Soyez-en certains. Et ça veut dire que demain, tout le massif risque d'être envahi et dégradé par des activités de ce type. On nous dira au nom de la liberté, mais de quelle liberté ?
Voilà, vous aurez compris que les tensions s'apaiseront peut-être, et on le souhaite, mais le débat, lui, est loin d'être terminé.
Et c'était Camille Passauvert, bien sûr, que vous pouvez réécouter sur la page de la Terre au Carré. Et nous crapahutons toujours, Camille.
N'arrête pas. Olivier et Claude, vous êtes à côté de moi. Vous avez entendu le sujet. Un maire, que j'ai pas rencontré, mais a déclaré, un maire du coin, qu'il fallait que la forêt reste ouverte à tous. Est-ce que vous pensez que le parc des Ballons des Vosges peut rester ouvert à tous ?
Ah, je dirais ouvert à tous, oui, mais peut-être pas partout, et puis pas n'importe comment. Et il faut trouver les bonnes solutions.
Ouais, mais ça, c'est langue de bois, ça. Mais non, faut vraiment dire un peu plus.
Ah, mais non, c'est pas langue de bois. Ce que je voulais dire, votre reportage, il est assez illustrant, il est très bien fait. Il montre qu'il y a différents points de vue. Il montre aussi qu'il y a certains secteurs où ça va plutôt bien, c'est la majorité des cas. Et des secteurs où il y a des points de tension qu'il faut trouver, qu'il faut solutionner.
Florent Campello, vous êtes aussi, je crois, touché un peu par cette fréquentation en hausse. Il y a du monde qui vient au-dessus de chez vous, je crois, c'est ça ?
Oui, alors effectivement, Camille, chez nous, on a le Volon Express qui nous emmène tout l'été à peu près entre 100 à 150 vététistes par jour. Et piétons aussi, au milieu de notre chaume historique qui existe depuis plus de 150 ans. Et on subit ça depuis maintenant à peu près 10 ans. sans aucune contrepartie, disons-le franchement, et qui puisait avec souvent les... je reprends mon souffle.
Oui, j'ai l'impression que vous êtes essoufflé, c'est marrant ça, on se demande bien pourquoi.
On me fait courir. Non, c'est pour vous dire qu'on est vraiment en train de courir, en train de monter. Là, et tout simplement en train de dire que les VTT aujourd'hui ne font pas attention au fil. Il y a des blessés, il y a des dangers, et que tout simplement, je pense qu'il est temps d'équilibrer les choses et de mettre les infrastructures qui vont avec les VTT, puisque ça se met de plus en plus.
Ouais. Alors ça y est, Anne-Marie, on arrive dans votre ferme, là, ça y est, on y est vraiment dans l'étable. Hein.
Ah oui, tout à fait, là, vous êtes dans l'étable, vous allez rencontrer les petits veaux, et puis vous allez leur faire des petites caresses, quoi. Bon. Voilà.
Il paraît qu'on entend des hirondelles ici, c'est vrai? Elle niche ici?
Oui, ah oui, ici c'est dès qu'on a... tout l'été en fait, elle nous garde l'étable quoi.
Ouais. Ah oui, on voit les veaux ici, donc ils sont à peu près 6-7 hein.
C'est ça? Oui, voilà, ça c'est nos petits bébés quoi, donc qui mangent enfin qui boivent juste du lait quoi. Ouais.
Et pourquoi les veaux sont dans l'étable et pas dans une autre prairie éventuelle Florent?
Alors tout simplement parce que les veaux, ils sont un petit peu trop petits pour sortir et que
quel âge là?
Là ils ont un mois et demi maximum. Donc ça veut dire que c'est du foin, on leur apprend justement la flore intestinale qu'il leur faut pour grandir, donc ça veut dire du foin et du lait et un peu de sel. Et puis ouais, là, il y en a un qui vient de courir là, voilà.
En mode rodéo là.
En mode rodéo, et ben voilà, c'est signe de très bonne santé de nos veaux. Et c'est aussi surtout pour le parasitisme, parce que si on les sort trop tôt, en fait, ils vont se parasiter dans l'herbe. Et du coup, il faut d'abord qu'on leur mette une bonne flore intestinale qui leur permet naturellement d'être immunisés là-dessus.
Mais ils sont séparés de leur mère pendant longtemps?
Non, je vous demandais plutôt Florence, c'est mieux.
Oui, alors, comme on est des éleveurs laitiers, on sépare le veau au bout de 24 ou 48 heures de la mère et on donne le lait de la mère au veau pour qu'il grandisse. Voilà. Et
mais ensuite... le veau reverra plus jamais sa mère, ça.
Si, puisqu'avant, les laitières qu'on a vues, vous avez vu Edelweiss, qui était la tante de Nicole, qui était la sœur de Neige, et en fait, c'est la
on
même famille.
Donc,
voilà. Et en fait, elles se revoient, mais plus tard. Et je peux vous garantir, moi, en tant qu'éleveur, qu'on a vu des familles qui se retrouvaient réellement entre mère et fille, une fois qu'elles étaient ensemble dans le même troupeau.
Mais là, ce ne sont que des femelles?
Alors ici, c'est que nos femelles de renouvellement. Alors et là-bas aussi, c'est ce qui nous permet en fait tous les ans, on va à peu près introduire 10 animaux dans le cheptel. Et les 10 animaux de renouvellement, avant, ils nous en faisaient par exemple 20. Et on parlait avant vis-à-vis.
Pardon, mais les mâles, vous en faites quoi?
Alors les mâles, on fait soit du veau de lait, ou soit on les vend pour reproducteurs.
C'est quoi l'emploi du temps d'une vache ou d'un veau d'ailleurs dans la journée, Florent?
Bon, du repos, manger. Faire caca, ça, de toute façon, parce que sinon on serait pas emmerdé. Et puis ensuite, c'est tout simplement donner du lait. Alors faut savoir qu'elles sont très motivées à venir à la salle de traite, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est que les animaux, ils aiment se faire traite parce que justement, elles ont la mamelle qui est pleine et ça les soulage. Et ensuite, traite le matin. Ensuite, on va au cornadi, tac. Elles mangent du foin toute la matinée. On les sort à la pâture vers les 8h30, 9h. Toute la journée à la pâture, on était avant. Elles reviennent le soir pour se faire traire. Rebelote, et le soir, on les ressort encore jusqu'à peu près, jusqu'à la fin du mois, et après, elles vont dormir la nuit à l'étable, et ensuite, arrivé l'hiver, elles vont être à l'intérieur.
Ça dort combien d'heures par nuit, une vache?
Ça dort toute la journée, c'est pas forcément que la nuit. La nuit, elle mange aussi.
Florent, quand vous avez choisi justement d'utiliser la race vosgienne, il y avait des raisons tout à fait particulières, parce qu'ici, c'était pas vraiment une vache qui était très à la mode. Vous l'avez fait revenir un peu au goût du jour. Pour quelle raison?
Eh ben tout simplement parce que on a très rapidement vu que la race qu'on avait avant la Vosgienne, elle n'était pas adaptée à ce territoire. À ce territoire acide, au fait de transhumer, de marcher 15 km en montant. Elle n'était pas adaptée à l'alimentation qu'on lui donnait en face. Et on avait quelques Vosgiennes dans le troupeau. Et du coup, j'ai très vite compris que l'avenir de l'exploitation agricole, c'était la race vosgienne. Parce que elle est adaptée, le fourrage grossier qu'on fait, et je tiens à préciser qu'on est autonome sur le fourrage, eh ben, ça fait que cette vache-là, elle évolue dans son territoire, elle grandit, elle fait de la viande, elle fait du lait, parce que la race vosgienne, c'est une race mixte, et elle permet surtout de faire vivre une famille avec 3 enfants, une deuxième famille sur un salarié, et en ce moment, on est 4 personnes et demie qui travaillent sur l'exploitation agricole. Donc ça veut dire que l'exploitation agricole, telle que moi je l'ai définie il y a 10 ans, elle permet aujourd'hui de pouvoir payer 4 salaires et demi pleins. Et ça, quand on est producteur, quand on valorise l'image de son animal à travers ses produits, à travers son environnement, à travers son tourisme, parce que le paysage c'est du tourisme, et qu'on arrive en plus à valoriser à travers l'emploi, je trouve que ça c'est une richesse économique pour l'ensemble du pays qui n'est absolument pas à mettre de côté.
Olivier Claude, la présence de troupeaux de vaches comme ça dans le parc naturel, c'est indispensable?
C'est indispensable, c'est déjà le patrimoine, c'est la culture. Et puis, comme l'a dit Florent, elles entretiennent l'espace, elles créent elles-mêmes ces vaches de la biodiversité. Alors Florent, il a dit un truc très intéressant, notamment sur l'autonomie fourragère. Il a aussi dit que les vaches elle mange la nuit, mais je voudrais aussi préciser qu'elle mange l'hiver. Et ça, c'est aussi un problème, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut garder des pâturages, il faut garder des prés pour nourrir les vaches l'hiver. Et c'est tout le travail qu'on réalise le parc, c'est essayer de garder ces espaces agricoles pour maintenir les troupeaux sur le territoire.
Florent, alors là, on est dans un endroit de l'étable évidemment essentiel, c'est le foin. Et vous avez trouvé une idée, justement, pour limiter vos gaz à effet de serre.
Oui, alors... Comme on l'a dit à peu près au début de l'émission, c'est qu'en fait, nous, on avait une volonté de réduire notre impact et donc réduire notre plastique. Et faire des bottes avec du plastique autour, ça, c'est des choses qui nous n'allaient pas. Déjà, d'une, pour la qualité de fromage, ne pas avoir de produits fermentés dans un fromage, c'est signe de bonne qualité, de très haute qualité gustative. Et ensuite, on a investi cet hiver dans un sachet en grange avec une griffe à foin qui nous empêche, qui nous évite d'utiliser le tracteur tous les jours. Et au bout d'un an, on a conclu qu'on arrivait à moitié moins de gasoil, plus de plastique, et on profite de la chaleur solaire pour sécher notre foin. Et donc, du coup, c'est une meilleure qualité de fourrage, une meilleure qualité au niveau fromager et une meilleure qualité santé de l'animal. Parce que si vous mangez que de la choucroute tous les jours, Mathieu, je suis pas sûr que vous allez bien passer.
Ouais, c'est vrai que ces balles en plastique, on les voit partout dans les champs ici, hein.
Ben, c'est un choix. C'est un choix de facilité, de dire, voilà, si on n'arrive pas à faire des bottes sèches, on arrivera à faire de l'enrubanné. Donc, du coup, on met du plastique en dessous et on conserve. Alors, moi, je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que pour notre exploitation, c'est pas vraiment la philosophie qu'on en a. Voilà.
Allez, on se retrouve dans un instant de notre terre au carré ici à Mittelaar dans le massif vosgien.
I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Times when you feel it kicking in that sun.
La terre au carré dans les Vosges, c'est l'automne sur France Inter.
Et nous y sommes à Mittelaar, en Alsace, donc dans le massif vosgien. C'était Lord avec Solar Power juste à l'instant.
Faut quand même qu'on raconte qu'on vient de faire un périple à l'intérieur de l'étable.
Et on a perdu la liaison au milieu.
On
en
est
plus.
Un petit peu peur. On est où là, Anne-Marie? Alors, vous pouvez nous dire?
Donc là, vous êtes vraiment au cœur du domaine fabrication. Vous êtes dans la cave Atome, quoi. Donc il y a les hauts chaumes autour de vous, les cœurs de massif, les barcasses nature, aromatisées, voilà.
Le coffre-fort de la ferme.
La banque.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Alors vous avez un magasin ici, hein, puisque vous vendez tous vos produits. début. Alors, vous faites du fromage, mais quoi d'autre, Anne-Marie?
Eh ben, évidemment, du lait, de la crème, du beurre fermier, de la charcuterie. Donc, ça dépend, voilà, ce qu'on tue comme bête, cochon, vache, voilà, donc saucisson, jambon, caissette de viande, voilà.
Et on s'excuse parce que pendant qu'on fait l'émission, du coup, le magasin est fermé, puisque c'est Anne-Marie, normalement, qui est, c'est ça?
Oui, tout à fait, mais bon, voilà, on va déjà rebondir, et puis les gens, ils repassent souvent, quoi.
Ouais. Olivier Claude, d'où l'intérêt aussi de prendre soin des prairies, parce qu'avec de bonnes prairies, on fait aussi du bon lait, donc du bon fromage.
Bah, c'est l'essentiel, hein, l'exemple, notamment, du cœur de massif, là, qui est sorti il y a pas longtemps avec la race Vosgienne et un produit 100% montagne, 100% Vosgienne, avec prairies naturelles, donc, effectivement, le fromage est excellent. Surtout après les saisons d'été, là, dans les chaumes, là, c'est extraordinaire.
J'avais juste une petite question sur le goût du Munster. Comment on explique ce goût très fort, Florent?
Un goût fort? Non, le Munster, c'est un fromage qui n'a aucune odeur. Non, alors on l'explique pourquoi? Parce qu'en fait, on le lave tous les deux jours avec de l'eau salée. Et donc, du coup, en fait, plus on met de sel, plus il a cette odeur un peu plus fort et plus il va être fort en bouche au niveau de la croûte.
Pourquoi faut le laver avec de l'eau salée?
Eh ben, en fait, c'est pour donner cette croûte un peu orangée, si vous voulez. C'est de une et de deux pour le conserver et de trois pour lui donner un petit goût, quoi. Voilà.
Alors, je suis un petit crochet. Effectivement, le cœur de votre activité, c'est le fromage, mais il y a tout un débat aujourd'hui autour de la viande, autour des éleveurs et des bovins, de l'élevage. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui d'entendre qu'il faut manger moins de viande partout dans le monde?
Je respecte déjà de une le choix de tout un chacun. Nous, ce qu'on voit sur l'exploitation agricole, c'est qu'on a de plus en plus de demandes. Ce qu'on voit au niveau national, c'est qu'il y a de plus en plus de ventes au niveau de la viande. Et ensuite, troisième chose, c'est que il faut, au-delà de regarder l'animal, il faut aussi regarder ce qu'il y a derrière l'animal. C'est-à-dire que à travers l'élevage, Olivier le disait avant, un hectare d'herbe capte autant qu'un hectare de forêt de carbone. C'est-à-dire que on va capter plus de carbone en faisant de l'élevage, soit dans le fourrage sec qu'on met dans le séchage, ou soit en botte ronde, soit à travers le pâturage de l'animal. Donc ça veut dire que l'élevage n'a pas qu'un côté négatif de la viande, c'est un côté très positif sur le climat et sur le changement environnemental. Et ensuite, concernant la viande en tant que telle, ma foi, le choix est tout à chacun, je veux dire.
Mais Florent, quand vous avez décidé de diviser votre troupeau par deux, il y avait aussi l'idée de faire quelque chose de raisonné aussi là-dedans, non?
Oui, parce qu'en fait, alors déjà, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il y avait économiquement, il fallait que ça dure. Et acheter 50 000 euros par an de fourrage pour pouvoir nourrir 120 animaux, ça ne m'intéressait très peu. Il fallait que justement qu'on ait un cercle économique vertueux qui soit sur son territoire. Et donc du coup, de ce fait, on a dit on va diminuer de moitié le cheptel, comme ça on n'achètera plus tout ça, on sera autonome en fourrage, on pourra faire notre fromage et on affinera l'ensemble de la productivité ici.
Et donc vous vivez mieux aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les gens autour de nous qui viennent au magasin. On vend pas tous nos fromages en blanc pour quasiment rien, quoi. Donc on affine tout sur place, on gagne mieux notre vie. Moi je suis salariée sur la ferme, ce qui existait pas avant. On a Basile, on a notre voilà. Donc c'est vraiment, on a gagné, oui. De toute façon, le fromage est de meilleure qualité, et puis tout est fait sur place, du début à la fin, de l'herbe dans le pré jusqu'au fromage qui sort emballé du magasin, quoi.
Florent, évidemment, les paysans ont un rôle absolument essentiel à jouer à l'avenir, encore plus, avec les enjeux climatiques précisément. Comment est-ce qu'on peut essayer de convaincre et de séduire la jeune génération de s'engager dans vos boulots qui sont quand même hyper fatigants, avec des salaires modestes quand même, parce que même si vous gagnez votre vie, vous ne roulez pas sur l'heure. Comment on fait alors?
Alors déjà, pour préciser, gagner notre vie, pour nous, ça veut dire gagner 1 000 euros par mois. Donc quand j'entends certains qui se plaignent avec 1 500 euros ou 1 800 euros, qui viennent faire le travail que nous on fait, et on en reparlera plus tard. Première des choses. Ensuite, deuxième chose, c'est comment... Alors, on l'a vu durant cette émission, je pense que même vous avez été émerveillés par ces paysages. Et bien en fait, il faut se dire que le métier de paysan, c'est justement façonner ce paysage. Et si on a envie de mettre un emprunt émotionnel, un emprunt sur l'ensemble de son territoire, il y a un triptyque qui était formidable, c'était pays, paysan, paysage. C'est tout simplement l'avenir de la France qui se joue à travers nos jeunes générations. Et que quand on est mordu par ce métier, eh ben, on ne vit que pour ça. Et du coup, on voit le travail qu'on fait et on voit aussi le retour de la société qui se fait parfois. Et que le choix de la société sur la consommation qu'elle fait, c'est ça qui définira l'agriculture de demain. Et aucunement, aucune chose, rien d'autre que celle-là.
Oui, mais comment on séduit les jeunes alors? Parce que ça, je suis d'accord avec vous.
Avec la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années.
Comment on les séduit? Et bon, on les séduit par des systèmes qui sont autres que très productifs. On les séduit par des systèmes qui sont très environnementaux, qui sont avec la société et qui, surtout, il faut que les jeunes générations qui viennent, on les séduit parce que tout simplement, le discours qu'on aura et la remise en cause qu'on peut se faire, elle se fait à travers un travail collectif sur l'ensemble d'un territoire. Et du coup, les jeunes ne sont plus seuls dans leur exploitation agricole. Il y a un aspect social qui doit être fait et ça, c'est très important.
Allez, c'est le moment de retrouver le reportage d'Anaël Verzo qui nous emmène aujourd'hui à 10 km d'Épinal à Thaon-les-Vosges pour visiter, vous allez l'entendre, le plus grand jardin de cocagne de France. 12 hectares de terres cultivables, toutes les cultures sont biologiques, cultivées par des salariés en insertion. C'est Frédéric et Valérie Fesneau qui ont la charge de cette entreprise à la fois sociale et environnementale.
Je peux prendre votre prénom ?
Frédéric, donc le directeur des jardins de cocagne de Thaon-les-Vosges.
Alors on arrive dans le hall technique.
Donc un espace où la préparation des paniers se fait toutes les semaines. Et l'ensemble des paniers est composé uniquement de notre propre production de légumes. Tout est en agriculture bio.
Bonjour, je m'appelle Annelle, je travaille à France Inter.
Et panier, je fais partie des encadrants d'équipe sur le terrain.
Il y a combien de paniers à faire là ce matin?
On a 450 en tout. Ouais. Donc on travaille à la chaîne, un peu comme un self-service.
Voilà, je me faufile au milieu des potimarrons. Bonjour Karima.
Bonjour.
Vous mettez les carottes dans...
Alors là, j'ai 601 grammes de carottes à peser. Moi, je suis là depuis le 2 août. On ne fait pas tout le temps les paniers. On fait de la récolte, on fait des plantations, on fait... Moi, j'aime bien ce que je fais.
Vous êtes resté combien de temps à la maison sans travailler, du coup?
Une dizaine d'années.
Ah oui,
d'accord. Oui. Et oui, ça fait drôle là, de travailler à 53 ans, de reprendre le boulot.
Et vous gagnez bien votre vie ou c'est payé combien?
Sans vous dire de conneries, c'est dans les 900.
900 euros net? Mmh.
C'est toujours mieux que mon RSA que j'ai, 425.
Vous vous appelez comment?
Renaud. En gros, je suis en reconversion professionnelle. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est le maraîchage. Pour avoir l'optique, du coup, de m'installer après à mon compte.
Et avant, Renaud, vous faisiez quoi, du coup?
J'ai des diplômes en mécanique automobile, j'avais commencé à travailler là-dedans. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'y désintéresser, en fait. Je me cherchais, puis j'ai trouvé le maraîchage, en fait.
Je vous laisse bosser.
Non, mais merci.
Ouais. Elodie, Jessica, Pascal, Karima, Cardiatou et Mouillot. Voilà. C'est les noms des personnes qui travaillent ici, Frédéric.
Sur les différents postes, ouais. Alors, pour certains, le projet est bien défini, en faisant un tremplin sur les jardins. Pour d'autres, ça va être plus compliqué. Il faut déjà se restructurer, reprendre confiance en soi et ensuite, après, aborder un projet professionnel. Et donc, ça peut être plus ou moins long en fonction des salariés. Alors, on a trois activités sur les jardins. Vous avez vu la première activité, le maraîchage. La deuxième activité, on travaille autour de l'éducation à l'environnement où on propose des animations à tout public autour de l'écologie. Et la troisième activité tourne autour de l'alimentation. Donc on a un encadrant cuisinier qui propose des repas pour l'ensemble des salariés tous les midis. Et puis on commence à travailler à faire des préparations à base de légumes et de fruits qui sont revendus après sur notre magasin à l'ensemble de nos adhérents. Et on utilise les compétences aussi des salariés pour travailler sur ces préparations alimentaires. Donc on a Fana du Monténégro, voilà. Et puis on a Anna qui est espagnole aussi. Donc ce midi, on mange une paella, par exemple.
C'est le chargement. Et là, vous attendez quoi là? Vous attendez une caisse, un colis?
Oui, j'attends qu'il me termine les paniers de fruits.
Mauvaise nouvelle, ouais. Le camion arrive à 14h30, Michel. Merci.
Oui,
ouais, Fanny, le camion il n'arrive pas avant 14h30.
Voilà. Oh, bravo, ça a l'air délicieux. Hein.
Ah, je pense que c'est bon.
Voilà, les salariés de ce grand jardin de cocagne de Thaon-les-Vosges peuvent aussi profiter de repas chauds préparés sur place pour 2,80 €. C'est un service des gérants Frédéric et Valérie qui y tiennent beaucoup, comme les paniers bio distribués gratuitement. Florent et Anne-Marie, justement, je crois qu'ici, on est devant votre potager avec un rayon de soleil qui éclaire tout.
Comme si c'était fait exprès.
Voilà, l'aspect social, je crois, est très important aussi dans votre démarche. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, l'aspect social, elle est surtout villageoise. C'est-à-dire que on ne veut pas s'enfermer dans la robotisation, dans la numérisation des exploitations agricoles, mais on préfère justement l'aspect social avec, on a chez nous 4 retraités qui nous aident du village et c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à faire tourner notre exploitation agricole.
Donc vous travaillez avec eux toute l'année?
Quasiment quotidiennement, toute l'année. Voilà, on fait le bois ensemble. Ils viennent nous aider à faire remonter les parcs. Ils viennent nous aider à faire plein de choses. Et puis voilà.
Anne-Marie, il y a une bonne ambiance dans le village?
Oui, de toute façon, nous, quand on se retrouve dans la journée au milieu, enfin pour le déjeuner, il y a toujours une bonne ambiance avec tout le monde, quoi, nos ouvriers, nos retraités, voilà, tout le monde mange un bout de gâteau.
Et ils mangent aussi de vos légumes parce qu'il est quand même sacrément costaud votre potager, hein.
Bah oui, c'est pour ça qu'on les, en plus, on les maintient en vie justement en leur donnant des bons légumes, du bon fromage, voilà quoi.
Ils sont pas à moitié morts, hein, ils ont encore beaucoup d'années à faire chez nous, hein, pas non plus.
Olivier Claude, je vais vous donner le dernier mot parce que nous sommes ici devant une montagne qui ne ressemble pas du tout à une taupinière.
Mais c'est vrai, Florent, les taupinières, elles sont un peu hautes, hein, donc le Rothenbachkopf, hein, les crêtes des Vosges, là on voit cette forêt magnifique et puis ces sommets d'altitude, des espaces naturels exceptionnels. Un village juste en dessous, c'est ça les Vosges, c'est des zones naturelles extraordinaires, des petits villages blottés dans les fonds de vallée.
Ouais, et on y reviendra demain. Dernière étape chez l'autrice Claudie Oetzinger. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous à Mittlar. Et venez acheter du fromage, vous verrez, ils sont très sympas. Ils ont fermé tout l'après-midi pour nous.